Étienne, tu nous entends ?
C'est bon, c'est bon.
Ok.
La radio des entretiens territoriaux de Strasbourg, en direct sur Fréquence T.
Mesdames, Messieurs, bonsoir ou rebonsoir pour les plus fidèles d'entre vous. Je vous rappelle que nous sommes en direct de Strasbourg pour cette édition 2021 des entretiens territoriaux de Strasbourg en version hybride avec beaucoup de personnes qui nous font face et beaucoup de personnes aussi qui suivent nos entretiens par le biais de la magie numérique. Ces émissions sont podcastables d'ailleurs et donc sont réécoutables pendant 6 mois. Notez-le et si vous êtes bien sûr inscrit à la radio des ETS Fréquence T qui assure donc le relais de toutes ces émissions. Le thème central des ETS, c'est comment relever pour les territoires les défis démocratiques. Et nous allons rentrer dans un secteur un peu plus technique qui semble être destiné à des spécialistes de la comptabilité publique. Et pourtant, à l'heure où la transition écologique est au cœur de l'action publique locale, la question des outils mobilisables pour mesurer la performance des politiques publiques sur ces enjeux se pose à tous avec acuité. L'évaluation climatique des budgets et les budgets carbone ont apporté une première réponse. Les comptabilités écologiques dites multicapitaux, dont la comptabilité adapté au renouvellement de l'environnement, dite CARE. Or, CARE, je ne sais pas si on le prononce in English, on verra tout à l'heure avec nos intervenants, se propose d'aller plus loin en intégrant directement dans les bilans les dettes contractées à l'égard des capitaux naturels par l'activité humaine pour compter ce qui compte vraiment, en quelque sorte. Comment ça marche ? Comment ça se calcule ? Nos intervenants que je vais vous présenter m'ont promis d'être le plus clair et le plus didactique possible pour permettre à tout le monde de comprendre cet enjeu aussi primordial que donc la comptabilité publique. Il s'agit de Christophe Amoretti-Hannequin, directeur finance et achat responsable à France Urbaine, d'Anne Tavernier, directrice administrative et financière de la 27e région, de Jean Laudoir, chargé de projet à la même 27e région. Anne Tavernier, Jean Laudoir, vous êtes à distance. Bonjour à tous les deux, bonsoir plutôt, vous nous entendez bien ?
Bonsoir, oui, très bien.
Oui, très bonsoir, bien. Jean, je vous entends très bien. Ouais.
Eh ben, c'est merveilleux, petite vérification qui s'imposait. Christophe Amoretti-Hannequin, lui, il est là, en chair et en
Bonjour.
Os.
Bonjour, merci
a fait le déplacement.
Pour l'invitation.
Merci Christophe d'être ici. Je crois que la première question à se poser, on va se jeter à l'eau directement, cher Christophe Amoretti-Hannequin, c'est qu'est-ce qu'une comptabilité multicapitaux ? Est-ce que vous pouvez, voilà.
Alors ça peut paraître un nom barbare, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît et que finalement ça repose sur des principes, une logique et du bon sens paysan, si je peux me permettre. Avant de rentrer peut-être dans le détail de ce qu'est une comptabilité écologique multicapitaux, rappelez peut-être que nous sommes face à des enjeux, des bouleversements climatiques majeurs, avec aussi des effondrements de la biodiversité et que face à ces enjeux, nous sommes aujourd'hui démunis ou je dirais même tétanisés puisqu'on ne sait pas exactement toujours ce qu'on doit faire ou on n'ose pas aller jusqu'au bout de ce qu'on devrait faire. L'ONU a récemment indiqué qu'avec les engagements des États actuels, on n'irait pas sur une trajectoire climatique avec 1,5 degré d'augmentation à la fin du siècle, mais plutôt 2,7 degrés. Donc on voit bien aujourd'hui qu'on n'a pas, réussi à mener des actions, à définir des actions qui soient à la hauteur de ces enjeux. Alors ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas des travaux très sérieux qui sont menés sur la question. Il y a plein d'associations ou d'organismes qui réfléchissent à la question. Je ne vais pas tous les citer, hein, parce que je vais forcément en oublier quelques-uns. Il y a Shift Project. Je pense aussi aux 4 scénarios de trajectoire énergétiques qui ont été publiées cette semaine par l'ADEME et qui montrent comment on pourrait s'y prendre pour respecter la neutralité carbone à l'horizon 2050 avec des scénarios qui reposent essentiellement sur la sobriété, voire la frugalité, et puis d'autres scénarios plus optimistes, d'aucuns diront peut-être même irréalistes, qui fonctionnent, qui reposent sur le pari qu'on ferait que des nouvelles technologies permettraient de résoudre la question. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est une boussole qui permettrait de définir clairement et précisément les orientations des différents acteurs et d'avoir des objectifs qui soient clairement définis. Donc, des boussoles, pourtant il en existe, je peux en citer deux que tout le monde connaît. Le produit intérieur brut, par exemple le PIB, est un agrégat qui est utilisé dans les comptes nationaux, qui permet de mesurer la richesse nationale, mais cet indicateur ne renseigne en rien sur la soutenabilité ou la durabilité d'un modèle. Si je prends par exemple, admettons que l'État décide, c'est une hypothèse évidemment, que j'espère irréaliste, mais admettons qu'un gouvernement décide de raser toutes les forêts du pays, eh bien, on va constater des ventes supérieures de bois et donc une augmentation du PIB. Et pour autant, j'aurais dégradé de façon irréversible le patrimoine naturel du pays et dégradé également la capacité de stockage du CO2 ou de la biodiversité. Donc le PIB ne permet pas d'assurer la viabilité du système d'activité humaine sur le long terme. L'autre boussole à laquelle on peut penser, et c'est celle dont on va parler peut-être plus en détail aujourd'hui, c'est la comptabilité. Donc la comptabilité, c'est vraiment le cœur du réacteur, c'est ce qu'utilisent les entreprises pour leur gestion, c'est également ce qui est utilisé par les États. Donc il s'agit à chaque fois de mesurer ou bien la profitabilité d'une activité, ou bien la soutenabilité d'engagement ou des actions de l'État. Mais là encore, ce sont la comptabilité. Aujourd'hui, elle ne permet pas de garantir que l'activité économique d'une entreprise est viable sur le long terme. Donc, je prends un exemple. Si je contracte aujourd'hui un emprunt, admettons que l'État ait un besoin de financement et qu'il s'adresse au marché financier. Il s'adresse au marché financier, donc il va lever des fonds pour assurer son financement et il va tracer cet engagement au travers de sa comptabilité. C'est-à-dire qu'il va constater dans ses comptes qu'il doit une certaine somme d'argent à des créanciers. Et pourquoi est-ce qu'on fait cette écriture ? Bien, on l'a fait parce que l'argent n'est pas illimité. Alors même si les opérations de quantitative easing récentes des banques centrales ou le quoi qu'il en coûte aient pu donner un sentiment différent, mais l'argent n'est pas une denrée gratuite. Et évidemment que les créanciers attendent son remboursement. En revanche, si je suis une entreprise, mettons du BTP, et que je veux fabriquer du ciment, je vais pour ça utiliser du sable, et du sable donc que je vais prélever, mais à aucun moment, c'est pourtant une denrée qui est une ressource en quantité limitée, et pour autant je n'en trace pas. Je ne trace pas dans ma comptabilité la finitude de cette ressource. Pourquoi est-ce que je ne l'inscris pas ? Ben parce que précisément, je considère que cette ressource, elle est illimitée et gratuite. Mmh. Or, c'est un postulat qui s'avère évidemment faux. Et donc, la comptabilité multicapitaux, elle se propose justement de réintégrer au sein même de la comptabilité la finitude des ressources. D'accord. Alors, pour répondre complètement à la question, et après, je vais prendre la parole pour pas la monopoliser, rappeler peut-être que pourquoi est-ce qu'on parle de comptabilité multicapitaux ? Bien parce que précisément, c'est une comptabilité qui ne va pas s'intéresser uniquement au capital financier, puisque la comptabilité aujourd'hui, elle se préoccupe uniquement du capital financier. Elle a remarquablement d'ailleurs réussi à le préserver. Là, dans la comptabilité multicapitaux, on va intégrer d'autres capitaux naturels, dont on pourra revenir tout à l'heure peut-être sur la définition, justement pour en garantir la pérennité. Donc, Aujourd'hui, il y a différents modèles de comptabilité multicapitaux. Il y a CARE, donc, qui est la comptabilité adaptée au renouvellement écologique. Alors, j'oublie toujours ce que ça signifie en anglais. Je crois que c'est Comprehensive Accountability in Respect of Ecology.
Je vous fais une entière confiance là-dessus.
Ok, bon, peut-être que Anne ou Jean.
Mais on va voir du côté.
Il y a d'autres méthodes qui s'appellent notamment LIFT. Et puis, à côté de ces comptabilités, il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés en complément ou avec. Je pense notamment à la théorie du donut qui définit des plafonds écologiques et des seuils, enfin des minima, on va dire, sociaux.
Anne Tavernier, vous avez la traduction en anglais de CARE ?
C'est ce qu'a dit Christophe.
Ah bon. Il avait un doute injustifié là-dessus. Alors justement, est-ce qu'on peut développer un peu plus ? On a bien compris, hein, notamment l'histoire. Excellent exemple sur le PIB. Parfait. Voilà. Quels sont les outils de gestion aujourd'hui qui sont mobilisés et quelles sont les limites, en quelque sorte, de recourir à cette comptabilité multicapitaux ?
Le constat.
Vous êtes là ?
Oui. Le constat, bon, c'est vrai que Christophe l'a très bien dressé. Il est qu'aujourd'hui, donc, les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, ont une comptabilité financière, qui a une comptabilité financière, qui va permettre de tracer des flux financiers, mais qui laisse de côté un ensemble d'enjeux qui, effectivement, deviennent de plus en plus préoccupants. Et donc, effectivement, ce qui apparaît en fait de plus en plus clairement, c'est que le système comptable utilisé traditionnellement dans les organisations ne permet pas de prendre en compte les enjeux qui aujourd'hui nous préoccupent. Et c'est sur la base de ces comptabilités, donc la comptabilité, c'est l'outil, le socle des outils de gestion, en fait. C'est-à-dire que c'est à partir de la comptabilité que les organisations vont développer leurs outils de pilotage et leurs outils de gestion. Et donc, en fait, on comprend assez vite que si ces comptabilités n'intègrent pas un certain nombre d'éléments, en fait, ces éléments sont invisibilisés et ne permettent pas de... quelque part, les systèmes comptables sont importants parce qu'ils vont induire les choix stratégiques des organisations par leur construction même et par le périmètre des entités qu'ils vont prendre en compte. Et donc, c'est tout l'enjeu, en fait, de ces comptabilités donc qu'on peut appeler multicapitaux, mais qu'on peut aussi appeler socio-environnementales et qui visent, en fait, à acter la finitude d'un certain nombre de ressources ou d'entités naturelles, et y compris le capital humain, en fait, a des limites, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les humains aussi peuvent s'épuiser. Et donc, c'est d'acter la finitude de ces entités et de les positionner, en fait, dans les outils de pilotage et les outils de gestion des organisations au même niveau que les enjeux financiers, en fait. Et donc, l'état aujourd'hui, c'est qu'effectivement, donc on a cette comptabilité financière, et puis on a à côté l'extra-financier, souvent qui développe, enfin qui est du reporting, qui va permettre de décrire en fait un certain nombre de choses, mais qui se positionne toujours. Alors souvent d'ailleurs, il se positionne souvent en aval. Donc c'est pas forcément un outil dynamique qui va permettre de piloter en fait au quotidien l'organisation. Et en plus, c'est souvent des outils qui sont déconnectés en fait de systèmes de pilotage comptable et donc qui ont plutôt un rôle informationnel. Mais en fait, le constat aujourd'hui, c'est que très souvent, l'extra-financier, la performance RSE ne vont pas permettre d'initier des changements systémiques majeurs en fait. Et alors l'autre écueil, c'est que ça peut être aussi donc ces outils extra-financiers, performance RSE, des outils qui vont plutôt être utilisés à des fins de communication en fait. C'est-à-dire que l'enjeu, ça va être peut-être pour une organisation de valoriser à travers ces outils ce qu'elle fait de bien, ce qui n'est pas du tout le cas des comptabilités socio-environnementales dont on parle ce soir, parce que peut-être qu'on rentrera plus dans le détail plus tard, mais sur ces systèmes comptables, à l'inverse compliqué en fait de communiquer parce que souvent ça fait apparaître des situations très dégradées vis-à-vis, enfin en tout cas, donc ça fait apparaître des situations comptables en fait très dégradées dans les organisations, puisque en fait on est quand même majoritairement dans des organisations qui vont dégrader fortement les ressources sur lesquelles elles s'appuient pour fonctionner, quoi. Voilà.
Que ces organisations et notamment les collectivités, peuvent jouer en quelque sorte sur les deux tableaux, donc une comptabilité, on va dire, classique d'investissement en boîte, et informer aussi sur, justement, cette autre comptabilité qui apporte, comme vous le disiez tout à l'heure, une source d'information différente.
Oui, bah, l'enjeu, en fait, de ce qu'on appelle la comptabilité socio-environnementale ou multicapitaux, ça va être peut-être au démarrage de jouer sur les deux tableaux, parce que la comptabilité financière, elle est quelque part rendue obligatoire pour les organisations, enfin en tout cas rendue obligatoire par le fait qu'elle va permettre, en tout cas pour les organisations privées, l'octroi de crédit, enfin voilà, donc c'est quand même des outils qui sont, enfin, que les organisations sont tenues de produire. Donc au démarrage, ce qui s'expérimente en ce moment, c'est effectivement qu'une organisation tienne sa comptabilité financière et en parallèle tienne une comptabilité multicapitaux. Et la mobilisation collective à cet endroit-là, elle est d'essayer de pousser pour que ces comptabilités multicapitaux deviennent la norme demain et que les organisations soient tenues de produire en fait. Bah, donc en fait, l'enjeu, c'est de transformer le système comptable actuel pour que demain le système comptable intègre d'autres capitaux, ce qui a été le cas par le passé, hein, c'est-à-dire que au Moyen Âge, par exemple, les comptabilités qui étaient tenues dans les monastères, elles intégraient tout un ensemble d'éléments autour du rythme des prières, par exemple. Donc la comptabilité, elle n'a pas toujours été que financière. Elle reflète en fait l'état des préoccupations d'une société à un moment donné.
D'accord. Très bien. Alors justement, Christophe Moritier-Hannequin, comment fonctionne une comptabilité multicapitaux, quels en sont les grands principes et comment on intègre le coût de ces fameux dégâts causés par les femmes et les hommes au rayon donc de la dette, donc dans le bilan financier? C'est terrible, c'est compliqué, parce qu'on peut même à la limite reporter ça à, je sais pas, une comptabilité d'un particulier qui, quelque part, mettrait dans sa comptabilité pour l'achat de sa voiture les dégâts qu'elle va causer derrière. Donc, comment ça peut... comment ça marche? Comment on le calcule? Et qu'est-ce que ça peut donner en termes de points d'action, finalement? Voilà, qu'est-ce que ça entraîne, globalement?
Alors, il y a plein de questions à votre question. Il y a plusieurs questions dans votre question. Je vais essayer d'y répondre aussi méthodiquement que possible. Ah, pardon. Je disais qu'il y a plein de questions dans votre question.
Oui,
que j'allais essayer de répondre aussi méthodiquement que possible en essayant de rien oublier. La première chose peut-être qu'il conviendrait de faire, c'est de définir ce que c'est que le capital, finalement. Puisque le capital, historiquement, c'est quoi? C'est le principal d'un emprunt. C'est-à-dire... on me prête de l'argent pour mon activité, eh bien, le capital, c'est ce que je vais devoir rembourser en capital hors intérêt. Je dis ça parce que le capital est donc une dette et qu'aujourd'hui, on en a plutôt une définition différente parce qu'elle a évolué dans le temps. Aujourd'hui, on a tendance à considérer que le capital, c'est la valeur de l'ensemble des biens productifs. Donc pourquoi est-ce que je fais ce détour? Parce que... si je considère des capitaux naturels, on va venir après à ce que sont des capitaux naturels, eh bien je vais considérer qu'à partir du moment où j'utilise les ressources d'un capital naturel, je contracte une dette vis-à-vis de ce capital. Voilà. Donc de la même manière que lorsqu'un État emprunte auprès des marchés financiers, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure, eh bien il va comptabiliser dans ses comptes la dette qu'il a contractée vis-à-vis de ses créanciers, eh bien là je vais comptabiliser la dette que je contracte vis-à-vis de capitaux naturels ou humains. Alors je vais me concentrer peut-être aujourd'hui sur les capitaux naturels. C'est quoi un capital naturel? C'est l'ensemble des écosystèmes naturels que je vais utiliser dans le cadre de l'activité de l'entreprise ou de la collectivité, ou les mêmes écosystèmes, ils peuvent être différents, sur lesquels l'activité de l'entreprise va avoir un impact. Vous voyez, ça marche dans les deux sens. Donc, les exemples de capitaux naturels, ça peut être une rivière, ça peut être l'atmosphère, ça peut être un terrain, une forêt. Donc, tous ceux qui sont périphériques à l'activité sur laquelle je vais essayer de dresser une comptabilité complète. Alors, ceci étant posé, on peut se poser la question de comment est-ce que je fais pour monétariser, enfin, quelle valeur financière donner à ces capitaux finalement ? Est-ce que je donne une valeur aux abeilles ? Est-ce que je donne une valeur aux arbres ? Alors la réponse est non, et heureusement non. Ce qu'on va comptabiliser en comptabilité écologique, c'est les coûts de restauration, de préservation. Donc, prenons l'exemple, par exemple, de l'atmosphère. On sait aujourd'hui, à partir des travaux du GIEC, quelle est la trajectoire de gaz à effet de serre que je dois respecter pour atteindre les objectifs qui ont été fixés par les accords de Paris et la COP26. Objectifs dont je rappelais tout à l'heure qu'aujourd'hui, ils sont malheureusement déjà hors de portée au vu des engagements qui ont été pris. Mais admettons donc que je tente de respecter ces objectifs. Je vais reterritorialiser d'une certaine manière, déconsolider des enveloppes de gaz à effet de serre au niveau de mon territoire ou de mon activité ou de l'entreprise. Alors ça paraît compliqué à faire et effectivement c'est compliqué, mais il y a des gens très sérieux qui travaillent sur la question, les Science-Based Target Network notamment, qui fournissent des outils qui permettent de retraduire au niveau de son activité la limitation des gaz à effet de serre pour respecter la trajectoire. Donc, par rapport à ce capital atmosphère, eh bien, soit je suis en deçà de l'enveloppe qui m'a été allouée pour respecter cette trajectoire, et dans ce cas, la valeur de mon capital atmosphère est nulle, soit je dépasse mes émissions, et dans ce cas, ça veut dire que je contracte une dette, donc une dette qu'il va falloir que je rembourse. Alors, il y a plusieurs façons de l'envisager, ou bien ça veut dire que dans les années suivantes, je vais devoir avoir une activité qui dépense moins d'énergie, ou bien ralentir mon activité, ou bien investir dans des outils qui me permettront d'encapsuler les gaz à effet de serre que j'ai émis. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous paraît clair.
Ah non, c'est bravo pour l'effort de synthèse didactique. Continuez,
Christophe. Alors, j'ai pas terminé parce que, sans entrer trop non plus dans les détails, un des grands principes de la comptabilité multicapitaux, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité forte ou la non-substituabilité des capitaux entre eux. Ça veut dire, par exemple, que si je pollue un terrain, je ne vais pas pouvoir compenser comptablement par le fait que j'ai planté des arbres. Voyez, parce que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et donc, ça veut dire que dans mon bilan, et c'est pour ça qu'on parle de comptabilité multicapitaux, je vais avoir mon capital terrain, par exemple, mon capital atmosphère, qui vont être séparés et sur lesquels je vais utiliser exactement les mêmes outils que j'utilise aujourd'hui pour la comptabilité financière, par exemple l'amortissement. Voilà. Donc c'est très important, ce principe de soutenabilité forte. Je ne compense pas les capitaux entre eux. Un autre principe très important dans la comptabilité multicapitaux, c'est alors je suis désolé pour le terme un peu, mais vous allez voir, je vais essayer de vous l'expliquer.
Non, mais vous êtes très clair, Christophe, il n'y a pas de problème.
C'est ce qu'on appelle la double matérialité. Alors ça fait très savant, mais c'est plus simple encore qu'il n'y paraît. Ce principe, c'est que je dois tenir compte de l'impact de l'évolution des écosystèmes sur mon activité, mais je dois également tenir compte de ce que mon activité génère comme impact sur mes écosystèmes, sur les écosystèmes environnants. Donc ça veut dire, la double matérialité concrètement, que cette comptabilité, elle peut m'amener à revoir mon modèle d'affaires. Voyez, et je me permets juste de dire que cette question de la double matérialité, elle est très importante, elle fait même l'objet d'un enjeu, je dirais, géopolitique, puisque beaucoup de gens aujourd'hui qui réfléchissent sur les comptabilités écologiques, et la France est plutôt en pointe, hein, d'ailleurs, dans ce domaine, et les anglo-saxons ont plutôt une approche en simple matérialité, c'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent qu'aux conséquences de l'évolution de leur environnement sur leur modèle d'affaires. Il ne s'agit pas de remettre en question le modèle d'affaires lui-même. Vous voyez, c'est quand même une différence très, très importante. Alors, j'espère que j'oublie rien. Juste peut-être rappeler aussi que l'un des grands intérêts de la comptabilité multicapitaux, c'est de raisonner sur des stocks et non pas uniquement sur des flux. Je parlais tout à l'heure du sable. Je ne vais pas constater dans mon bilan le fait que je réduis chaque année la quantité de sable que je prélève. Je vais vraiment m'intéresser au stock qui m'est alloué et à l'impact de la diminution de ce stock et de mon activité sur le stock lui-même au cours des années. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... là encore, on intègre la finitude des ressources au cœur même du dispositif comptable.
Merci Christophe Amoretti-Hannequin. J'ai quand même, voilà, comme ça, hein, de l'extérieur, l'impression que ce que vous décrivez, ça ne doit pas se voir tous les jours quand même dans les organisations publiques ou privées. On va voir peut-être du côté de Jean Laudoir, hein, qui de la 27e région, pour savoir, Jean Laudoir, si une collectivité est aujourd'hui engagée quelque part ou approche de ce modèle que je me permettrai de décrire peut-être comme un peu utopique, mais il va me gronder, Christophe. Voilà, est-ce qu'on est en terre d'utopia ou est-ce qu'il y a d'ores et déjà des ferments qui tendent vers une concrétisation de tout ce qu'a très très bien, et bravo encore à lui, explicité Christophe Amoretti-Hannequin. Jean Laudoir.
Oui, alors pardon, j'ai été déconnecté, donc j'ai pas entendu ce qu'a dit mon collègue, mais c'est pas grave. Ah. Juste, vous pouvez.
Vous avez l'habitude de discuter.
La question.
Vous voulez que je répète la question, c'est ça? Vous l'avez pas complètement entendu? Très bien.
Oui,
non, je disais que est-ce qu'il y a en France ou autre des collectivités qui mettent en œuvre cette comptabilité multicapitaux qui s'en approche? Ça paraît très complexe et très utopique aujourd'hui de l'imaginer. Est-ce que je me trompe? Est-ce que il y a aujourd'hui effectivement dans les organismes publics cette tendance à aller dans cette direction-là?
Alors oui, alors effectivement, comme on a pu l'entendre, effectivement, ce sont des sujets complexes qui nécessitent véritablement un temps d'acculturation en fait, hein, pour aller plus loin. C'est aussi un peu un changement de paradigme. Je crois que c'est un peu ce que vous voulez dire, peut-être dans le terme utopie. C'est une autre manière de voir les choses. En tout cas, c'est aller un peu plus loin. Donc il y a un enjeu d'acculturation des acteurs publics, des élus aussi sur ces sujets-là. Aujourd'hui, il y a des outils qui existent dans les collectivités, hein, on les a vus, donc des budgets verts, des budgets carbone, des méthodes 4CE qui permettent justement de mettre le pied à l'étrier sur ces sujets, de bien acculturer aussi les agents sur ces questions environnementales, mais qui aujourd'hui aussi peuvent poser des questions en fait, c'est-à-dire comment on fait pour aller un peu plus loin. Que fait-on de nos budgets verts une fois qu'ils sont réalisés, et est-ce qu'on peut se tourner vers des outils qui seraient peut-être un peu plus systémiques et qui permettraient vraiment d'être plus ambitieux aussi sur les changements qu'il faudrait amener, autant pour l'acteur public que pour les autres acteurs aussi. Je dis ça parce qu'effectivement il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont menées sur ces comptabilités écologiques et sociales. Pour le moment, elles sont surtout menées dans le secteur privé. Donc il y a par exemple un lab Capital Naturel qui existe et qui expérimente la comptabilité CARE notamment avec des grandes entreprises de type LVMH, Fleury Michon, le groupe Rocher, voilà. On a aussi un groupement d'exploitation agricole, Ferme d'Avenir, qui expérimente cette méthode. Donc ces expérimentations, elles sont très intéressantes, mais en tant que telles aujourd'hui, il n'y a pas de collectivité qui a mis en place une comptabilité écologique et sociale. C'est un peu aussi l'enjeu de la démarche qu'on mène, nous, au sein de la 27e région. On a créé un programme qui s'appelle Nouvelles Mesures, qui est constitué d'un certain nombre de collectivités qui s'acculturent à ces sujets et qui ont l'ambition de se lancer dans des expérimentations sur ces sujets-là, pas que sur la comptabilité CARE. On a identifié d'autres méthodes de comptabilité dites intégrées ou des outils comme le donut dont Christophe a parlé tout à l'heure. Voilà. Il y a
plusieurs. C'est quoi le donut?
Alors, le donut, c'est une théorie économique qui a été développée par Kate Raworth, qui est une économiste, qui est simplement une représentation comme un donut. Donc, vous voyez un donut avec le trou au milieu. En fait, il y a un plafond du Bac.
Il y a plus de bretzel ici, hein, à Strasbourg, hein,
ouais.
Jean-Laudoir.
Ouais, on peut inventer un bretzel aussi économique et social, je pense, de pouvoir se faire. Mais donc avec un plafond social à ne pas franchir, c'est-à-dire pour respecter des critères de bien vivre en fait, et un plafond écologique à ne pas dépasser également. Donc en fait l'espace de bien vivre sur les sujets environnementaux et sociaux se fait uniquement dans cet espace entre le trou du donut et le vide en fait qu'il y a autour. C'est un outil qui permet en fait de définir un peu comme un diagnostic aussi d'une entité sur ce qu'elle a. Sur ce qu'il faudrait faire pour justement vivre dans ce plancher qui est une mince ligne en fait entre les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux. Voilà, donc c'est intéressant pour le côté diagnostic, effectivement.
Voilà. Je ne vous ai pas coupé avec l'histoire anecdotique du bretzel. Vous aviez peut-être d'autres choses à développer, peut-être. Notamment sur certaines démarches expérimentales.
Oui, peut-être, c'est un vrai enjeu, donc effectivement d'acculturer les acteurs publics dessus, mais aussi de pouvoir trouver une compatibilité sur ces sujets, c'est-à-dire qu'on comprend que ce sont aussi des sujets de recherche et de prospective, et que ça demande du temps et des moyens pour tester et expérimenter des choses qui sont, c'est un temps qui est pas forcément, le temps de la recherche en tout cas, il n'est pas forcément compatible avec peut-être un fonctionnement d'une collectivité, d'un acteur public, et il faut arriver à trouver des formules où on peut justement trouver un équilibre entre la recherche scientifique, les données, les constats qu'on a aujourd'hui sur un peu l'urgence écologique et en même temps la capacité d'action de l'acteur public et puis la possibilité de co-porter en fait cette responsabilité qu'on a tous, quoi.
D'accord. Jean-Laudoir, vous m'aviez susurré quand on avait préparé cette table ronde, cette émission, peut-être d'évoquer Territoire Zéro Chômeur. C'est un bel exemple.
Oui, tout à fait. Alors, c'est bien parce qu'on a beaucoup tendance à parler, quand on parle de ces comptabilités écologiques et sociales, surtout des aspects écologiques. Ce qui est intéressant avec la démarche de Territoires Zéro Chômeur, c'est qu'eux, ils s'intéressent beaucoup à la notion de capital humain, donc aussi de la comptabilité CARE, qui est un volet de la comptabilité CARE. Et qui intéresse aussi beaucoup les collectivités et les acteurs publics, puisqu'effectivement, il y a quand même un enjeu de ne pas seulement travailler sur les questions écologiques, mais aussi sur les questions sociales. Et Territoires Zéro Chômeur, eux, travaillent beaucoup cette question de capital humain pour pouvoir justement aborder les questions de valorisation de leur entreprise à but d'emploi et de travailler sur le territoire avec ces outils-là. Donc c'est aussi en friche, c'est aussi c'est un beau terrain de recherche et d'expérimentation, et je crois que voilà, c'est très intéressant à suivre et c'est en tout cas très pertinent pour avoir un modèle qui est complet et qui vraiment aborde autant ces questions sociales qu'environnementales.
D'accord, et on sait les difficultés que son initiateur, il me semble, son nom m'échappe, mais Jean-Laudoir, aidez-moi, l'ancien député, voilà, qui a initié donc cette démarche et les difficultés, les résistances qu'il a rencontrées au départ pour aller jusqu'au bout. Anne Tavernier, vous avez fait résonner tout à l'heure les cloches des monastères en prenant un exemple historique. Peut-être que justement, il serait utile de rappeler quelles sont les fonctions historiques de la comptabilité et est-ce que la méthode CARE la rend encore plus politique aujourd'hui, cette fonction-là?
Oui, alors donc là effectivement on va revenir à quelque chose d'un peu plus théorique, on va dire, mais alors moi je suis pas du tout historienne de la comptabilité, mais c'est vrai qu'en s'intéressant à ces questions de comptabilité multicapitaux, dont CARE est l'un des modèles en fait, mais il y a quand même plusieurs formes de comptabilité multicapitaux qui cohabitent aujourd'hui. D'ailleurs là, on l'a pas vraiment dit, mais il semblerait que la France soit assez en avance en fait, en tout cas en termes d'exigence sur ces formes de comptabilité multicapitaux et notamment dans une perspective de soutenabilité forte, comme le disait Christophe tout à l'heure. Et donc en investiguant un peu la question côté 27e région, en fait, on s'est aussi de fait repenché sur qu'est-ce que la comptabilité, et ça la chaire de comptabilité écologique qui porte le modèle CARE travaille beaucoup ces questions-là de revenir au fondement de la comptabilité. La comptabilité est quelque chose qui a quand même beaucoup évolué dans le temps en termes de notions, mais aussi de finalité. Et donc, c'est quand même intéressant de comprendre de quoi on parle, quoi, quand on parle de comptabilité. Donc, les camps, enfin, en tout cas, La comptabilité, elle peut se définir historiquement, en tout cas, selon quatre grandes fonctions et qui sont donc la notion de prendre en compte. Donc, je peux vous les dire rapidement et puis peut-être après les expliciter, mais donc c'est prendre en compte en premier lieu, être comptable de, compter. Donc, en fait, compter, qui paraît être la vocation ultime de la comptabilité, c'est que la troisième étape en fait de la comptabilité, le troisième objectif, et le quatrième qui est de rendre des comptes. Donc prendre en compte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait à travers la comptabilité, on va définir ce qui nous semble important de considérer. C'est-à-dire que la comptabilité, elle est apparue au moment où les sociétés humaines ont eu besoin de tracer des interactions entre acteurs, individus qui n'étaient pas d'une même famille. Et donc, en fait, elle vient consigner des flux, des systèmes de redevabilité entre acteurs. Et donc, il faut d'abord définir ce qu'elle vient consigner. Donc, la question de prendre en compte, c'est vraiment la base de la comptabilité, c'est déjà de se poser et de se dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on va tracer à travers ce système d'information qu'on est en train d'élaborer. Et c'est là qu'on dit que la comptabilité est politique, parce qu'en fait, ces choix-là, ils ne sont pas anodins. Quand on dit aujourd'hui qu'on trace les flux financiers à travers le système comptable qui est à la base du pilotage de l'ensemble de nos organisations, ça pose quand même un certain nombre de questions comment sont définis en fait ces éléments qu'on décide de prendre en compte dans nos outils de pilotage. Et donc en fait, quand on se repenche sur comment refonder ce système d'information qu'est la comptabilité, il faut d'abord se poser la question de comment, qu'est-ce qu'on a envie de prendre en compte et qui est légitime en fait à définir ce qu'on va prendre en compte. Et voilà, donc ça pose des questions de gouvernance autour de ces sujets, de qui sont les acteurs en fait qui vont se mettre autour de la table. Donc la deuxième fonction de la comptabilité, c'est être comptable de, c'est-à-dire en fait tracer des systèmes de redevabilité entre acteurs, parce que la comptabilité, elle vient consigner. La comptabilité, historiquement, elle était rattachée, elle était très proche du droit, hein. C'était pas du tout une discipline de gestion, c'était vraiment un outil au service des... En fait, elle vient matérialiser des relations contractuelles. Donc, en fait, elle permet de lire notamment dans les bilans qui doit quoi à qui, sur combien de temps. Enfin, voilà, donc c'est vraiment en fait l'enjeu de matérialiser des redevabilités entre un ensemble d'acteurs. Et ensuite, bon, compter, ça pareil, c'est politique si on veut, dans le sens où l'enjeu, c'est quand même d'abord de poser une convention, parce que comment on va compter, Christophe disait tout à l'heure sur les modèles de comptabilité multicapitaux comme CARE, on valorise le capital, des capitaux naturels ou humains, à leur coût de préservation ou de régénération. Donc ça, c'est une convention. On pourrait envisager de le valoriser différemment. Donc, en fait, la comptabilité, elle va s'appuyer pour compter sur un ensemble de conventions qu'il faut aussi définir. Et donc, ça aussi, quelque part, c'est un enjeu collectif. Y a tout ça pour dire qu'en fait, il n'y a pas de comptabilité subjective. C'est des outils qui sont... il n'y a pas de comptabilité objective. C'est des outils qui sont assez subjectifs en réalité. Et on oublie en les utilisant comment ils ont été construits et quelle vision du monde ils projettent aussi. Et puis, la dernière fonction de la comptabilité, c'est de rendre des comptes, c'est-à-dire qu'elle va permettre de communiquer, c'est un outil de communication, en fait, d'un certain nombre d'informations et outils qui va être structuré pour parler peut-être plus facilement à certains acteurs qu'à d'autres. Donc, la question qui émerge, c'est à qui on veut refonder en fait le système comptable, c'est à qui on veut rendre des comptes, à qui on veut parler, et peut-être que selon les acteurs à qui on veut s'adresser, il y a nécessité de retravailler la façon même dont on représente nos systèmes comptables, et donc clairement la façon dont les tableaux sont mis en forme, dont les chiffres sont mis en avant, voilà.
Très bien.
Et peut-être un dernier mot, juste pour élargir aussi ce qu'est une comptabilité. La comptabilité, elle n'est pas que financière. En fait, une comptabilité, enfin en tout cas, c'est pas forcément une comptabilité dans une unité monétaire. La comptabilité, elle peut aussi s'établir dans, selon d'autres unités. Et par exemple, l'empreinte, quand on calcule l'empreinte écologique et donc le jour du dépassement là, qu'on calcule chaque année, ben ça, c'est une comptabilité. C'est un système, en fait,
c'est
une
comptabilité. Qui c'est qui fait ça, d'ailleurs, au passage ? Qui c'est qui, comme dit-on, le calcule ? C'est vous, non ? C'est qui pose ce genre de données ?
Ah non, nous, on
ne
le calcule pas.
Qui fait ça ? Qui détermine le genre ?
Je ne sais pas quelle est l'organisation qui le produit, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'eux, par exemple, ils calculent, donc ils tiennent cette comptabilité en hectares. Donc, ils vont convertir un ensemble de données en hectares, quelque part. Donc,
d'accord.
Bon, voilà, nous, on tient nos comptabilités en euros ou dans une unité monétaire, mais on pourrait aussi envisager de les tenir dans des unités qui sont complètement différentes.
Ça, tout ça pour Merci.
Dire que l'unité de référence,
oui,
c'est pas forcément l'unité monétaire, quoi.
Bien sûr,
voilà.
Bien sûr.
On peut citer comme exemple,
si oui, Christophe.
En fait, les budgets carbone que j'évoquais tout à l'heure, hein, où on a des enveloppes gaz à effet de serre, bien, c'est une façon de comptabiliser qui n'est pas en unité monétaire. Et qu'on peut retraduire ensuite, justement, c'est l'intérêt de la comptabilité multicapitaux, en flux monétaire, en comptabilisant les dettes et les écarts par rapport aux objectifs.
Jean Ledouard, quel chantier quand même ? Parce que bon, il va falloir... acculturer les élus. Christophe Hennequin, Amoretti Hennequin, vous les connaissez, les élus. Ça va être un gros chantier. Jean Ledouard, vous aussi, vous les connaissez. Quant à la population, elle est elle-même en attente, effectivement, peut-être de schémas vertueux pour se mobiliser. Peut-être que ces comptabilités sont des ouvertures pour réconcilier. C'est un peu le thème de ces ETS, reconquérir en quelque sorte un lien de confiance avec la population. Comment vous envisagez finalement un scénario idéal qui intégrerait une comptabilité CARE parfaitement comprise, admise et simple à comprendre pour tout le monde ?
Alors oui, c'est pas une question simple, mais disons que effectivement les sujets de comptabilité écologique et sociale, ça va pas être un sujet facilement abordable, on va dire, pour le citoyen en tant que tel. Par contre, ce qu'il est un peu plus, c'est ce vers quoi ça nous amène. C'est-à-dire que peut-être que la question, c'est que ces comptabilités-là, elles nous amènent à remettre en question un peu nos modèles d'affaires, en fait, et à montrer que effectivement, des modèles d'affaires qui sont aujourd'hui légitimes sont en réalité déficitaires du point de vue de la dette environnementale et sociale. Et ça, c'est intéressant parce que je pense que une partie de la population veut avancer dans le sens où on soit effectivement plus dans une justice sociale et environnementale. Et ce sont des outils pour le montrer, ce qui amènerait effectivement les organisations à avoir un autre type de développement. Donc ça, d'une part, c'est intéressant. Ensuite, c'est important, je pense, d'avoir des outils aujourd'hui qui peuvent prendre en compte différents aspects dans un même temps, c'est-à-dire vraiment les aspects de climat, et c'est le cas aujourd'hui, on a beaucoup parlé de climat, mais aussi les aspects de biodiversité, et donc ça touche aussi beaucoup aux citoyens, aux usagers, aux espaces naturels, à ce qui s'y passe quand on se balade en montagne, quand on est au bord d'un lac, voilà, aux ressources dont on est usagé en réalité, et puis aussi de social. Donc en fait, d'avoir un outil qui peut intégrer toutes ces dimensions-là, qui ne sont pas séparées les unes des autres, en fait. On peut pas uniquement parler de bilan carbone, en fait. Il faut effectivement qu'on fasse le lien avec d'autres données scientifiques. Donc, il nous faut des outils de gestion qui sont en fait pour nous des outils de pilotage pour piloter les organisations, pour aller vers ces directions-là qui sont plus justes, en fait. Et effectivement, dans cette notion-là, il y a quand même une notion, on va dire, de participation démocratique, en tout cas de gouvernance qui est très importante, puisque comme on l'a dit au début, ces capitaux-là naturels ou sociaux, il faut qu'on soit plusieurs autour de la table pour les définir, et c'est pas uniquement à l'acteur public, c'est pas uniquement à l'entreprise sur le territoire de les définir et d'en définir les moyens de préserver, en fait. Voilà, il faut qu'on arrive à trouver de nouvelles instances de gouvernance qui puisse effectivement mettre sur le terrain cette participation collective, et ça reste à inventer effectivement, mais c'est une, comment dire, c'est une belle attente qu'on peut avoir, c'est de trouver de nouvelles formes de gouvernance sur ces sujets-là. L'enjeu, c'est évidemment de créer des systèmes de comptabilité, des systèmes d'information comptable qui sont nouveaux, qui vont vers ces directions, mais c'est surtout d'embarquer tout le monde, en fait, et d'embarquer toutes les parties prenantes pour qu'on soit effectivement dans une trajectoire plus juste, en fait.
Très bien. Construire le modèle, donc, pour mettre en œuvre effectivement cette trajectoire. Merci à vous trois pour ces premières explications et d'avoir pris le temps de nous expliquer les modalités difficiles à comprendre, mais vous avez fait vraiment tous les efforts qu'il fallait. On va voir, cher Christophe Hannequin, Amaury Hannequin, donc Mme Tavernier, M. Laudoire, on va voir si le public veut en savoir un peu plus et s'il est en capacité de réagir. Donc je balaye le public du regard pour voir si ses doigts, des doigts se lèvent et Lucie est prête, bien sûr, à approcher le micro. Monsieur, bravo. Merci de m'aider, hein. Est-ce que vous avez tout compris ? Vous allez nous le dire. Et présentez-vous d'abord.
Oui, bonjour Patrick Pasquier, je suis le directeur de la santé à la ville de Bordeaux. Donc effectivement, la ville de Bordeaux a une orientation, vous l'avez compris, écologique forte.
Oui.
Et donc dans les thématiques effectivement de mise en place d'un budget vert, donc on s'est inspiré notamment de la méthode E4CE. Donc on a fait un travail, je dirais, de rédaction, de colorisation du compte administratif à l'aune de la théorie du dispositif I4CE. Mais bon, c'est effectivement un exercice intellectuel intéressant. Mais aujourd'hui...
Le 4CE, pardon...
I4CE, c'est une méthode, effectivement, de comptabilité qui permet de décliner l'impact, effectivement, des politiques publiques en termes d'impact favorable ou défavorable sur le climat.
Merci.
Donc, ce travail en amont a été fait, et je pense que les services se sont bien appropriés à la thématique. Aujourd'hui, on est dans une période de préparation budgétaire. Et là, effectivement, je dirais, la machine budgétaire et la procédure budgétaire a pris le dessus. Et effectivement, tout ce travail qui avait été fait est un petit peu passé, je dirais, au second plan. Donc, alors qu'il y a une vraie volonté politique de porter cette dimension-là. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a des exemples de collectivités, je crois que c'est peut-être Lille qui est le plus en pointe, qui sont engagées sur l'utilisation de ce budget vert comme une aide à la décision et comme une aide au choix budgétaire, aux arbitrages budgétaires ?
Christophe, ou Tavernier, Jean-Doudois.
On peut tourner. Tous les trois. Hein. Alors, là, on parle d'autre chose, hein, puisque on n'est pas du tout sur les comptabilités écologiques multicapitaux. Ce que vous évoquez, ce sont des méthodes, notamment la méthode I4CE, qui permet de réaliser une évaluation climatique des budgets. Donc, juste pour que chacun comprenne, il s'agit de regarder l'ensemble des dépenses de la collectivité et d'estimer celles qui sont favorables, défavorables ou neutres par rapport à différents objectifs. Le premier qui a été travaillé, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Il y a aussi maintenant un volet adaptation, c'est-à-dire en quoi est-ce que les dépenses permettent à la collectivité de mieux s'adapter, de mieux prévoir aux changements climatiques malheureusement inévitables qui vont se produire. Et il y a la CDC Biodiversité aujourd'hui qui travaille, on va collaborer avec eux, sur une méthode qui étendrait l'examen des dépenses à la préservation de la biodiversité. Donc, et je crois que Jean a parlé hein, de ces outils tout à l'heure. Ce sont des outils qui sont tout à fait intéressants. Il y a des collectivités qui les ont réadaptés, je dirais, à leurs usages. Je pense notamment à Clermont-Ferrand ou à Bourg-en-Bresse. À Paris, ils font une évaluation de leur programme pluriannuel d'investissement en utilisant cette méthode. Alors, elle ne permet pas de tout résoudre, hein, cette méthode. C'est vrai qu'elle est chronophage, elle mobilise beaucoup d'acteurs, mais son plus grand intérêt, je pense, c'est justement de mettre autour de la table des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler au sein de collectivités, en réfléchissant à des questions qu'ils n'ont pas non plus l'habitude de se poser. Voilà, donc nous, on voit, de France Urbaine, je crois que c'est également un avis partagé par la 27e région, mais Jean et Anne pourront compléter, l'évaluation climatique de budget comme un premier volet. Et je pense que, d'abord, cette méthode, elle pourra être enrichie. En France Urbaine, on a monté un groupe de travail, justement, plus opérationnel, qui associe les collectivités membres pour réfléchir à comment mieux appliquer la méthode, comment l'enrichir, etc. Et surtout, elle pave la voie, elle ouvre la voie à l'utilisation d'outils plus systémiques dans lesquels je rangerai la comptabilité multicapitaux, puisque, comme je le disais tout à l'heure, là, on ne va pas raisonner uniquement sur des flux. Est-ce que ça, c'est bien? Est-ce que ça, c'est moins bien, etc. Mais on intègre au sein même de l'outil comptable des objectifs, et je dirais presque des devoirs. Ce n'est pas ce que je pourrais faire mieux, c'est ce que je dois faire et les écarts que je constate par rapport à ce que je devrais faire. Vous voyez, donc c'est quand même beaucoup plus systémique. Mais on est vraiment au début de l'histoire. Nous, on constate quand même qu'il y a de plus en plus de collectivités qui s'emparent de ces sujets, qui, justement, une fois qu'elles commencent à maîtriser l'évaluation climatique des budgets, se posent la question peut-être d'aller plus loin. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question.
Peut-être Anne Tavernier et Jean Laudoir vont répondre aussi, s'ils le souhaitent, bien entendu.
Oui, Anne Tavernier, oui. On a à peu près la même analyse que Christophe, en fait, hein, c'est que effectivement les collectivités qui embarquent aujourd'hui dans le programme Nouvelles Mesures, donc qui vise à déjà décrypter ces nouvelles formes de comptabilité écologique et sociale pour ensuite tenter des expérimentations, donc plutôt à partir de l'année prochaine, c'est des collectivités qui sont déjà passées par les budgets verts, budget carbone, les méthodes ICATE, et qui, en fait, comme le disait monsieur à l'instant, en perçoivent les limites. On perçoivent aussi que c'est quand même un travail assez chronophage et que, à un moment donné, ça transforme pas en profondeur la façon dont la collectivité va définir ses orientations budgétaires. Et donc, l'enjeu, là, en tout cas pour nous, dans le cadre de nouvelles mesures, c'est de mobiliser ces collectivités qui ont envie d'aller plus loin et en se disant que peut-être que comme c'est compliqué, comme c'est émergent, comme ces expérimentations, elles ont encore eu assez peu lieu, voire pas du tout lieu dans le monde public, pour l'instant, c'est plutôt les acteurs privés qui expérimentent ces approches-là, peut-être que si on y va à plusieurs, et qu'on se serre les coudes, on arrivera à faire quelque chose. Mais oui, voilà, l'enjeu, c'est d'essayer d'aller plus loin.
Jean Laudoir, là-dessus?
Oui, non, même chose. C'est vrai que ça fait partie d'un postulat du programme qu'on monte. C'est vraiment comment orienter l'action post-budget carbone, budget vert, en fait. C'est dépasser ses limites et effectivement, cela dit, c'est, comme l'a dit Christophe, c'est une trajectoire qui semble quand même indispensable. Comme l'a dit Anne aussi, les partenaires, les collectivités qui sont dans le programme, elles sont passées aussi par ces évaluations-là, qui sont importantes pour se saisir de ces sujets et qui aussi, effectivement, mettent à l'étrier la manière de travailler, c'est-à-dire entre services financiers, les services prospectifs, voilà. C'est donc intéressant pour ça. Après, tout l'enjeu, c'est aussi d'aller plus loin et d'expérimenter des modèles qui sont encore au stade de la recherche, mais qui sont très prometteurs, et notamment sur la question de la comptabilité. Ouais.
Très bien. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une autre question, madame? Je vous en prie.
Bonjour, Muriel Hentin, département du Rhône. J'aurais deux petites questions. La première, mais que vous avez un tout petit peu abordée tout à l'heure, c'est la question de la normalisation. On sait que la comptabilité, elle a un enjeu, c'est de pouvoir comptabiliser, mais aussi de pouvoir se comparer. Donc, où on en est dans ces sujets-là en termes de normalisation, qui y travaille, parce que comptabiliser de manière différente, ça ne permet pas de se comparer. Et puis la deuxième question, c'est sur la question des risques de financiarisation de ces marchés, de ces nouveaux capitaux. On sait qu'il y a eu des enjeux sur le marché de gaz à effet de serre, par exemple. Est-ce que vous avez identifié des risques de ce type-là et des manières d'y répondre?
Qui souhaite répondre? Christophe.
Sur la partie normalisation, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, mais sans doute pas aussi complètement que vous le souhaitez. Il y a aujourd'hui beaucoup de discussions. Donc il y a des cabinets comptables, il y a la charte de comptabilité écologique. Ça discute aussi, y compris au sein de l'autorité des marchés financiers. Ça discute aussi au sein des personnes qui définissent les normes comptables internationales IFRS. Et il y a beaucoup de discussions entre la façon d'atterrir, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur un principe de soutenabilité forte en double matérialité ou est-ce qu'on est plutôt en simple matérialité. Donc pour l'instant, il n'y a pas de caractère normatif à ces comptabilités qui sont je dirais, émergente ou expérimentale. Après, la question que vous posez aussi sur la norme, c'est comment est-ce que je définis, parce que avant de monétariser, de transformer en euros les dépenses qu'un acteur devra engager pour préserver ou restaurer des écosystèmes naturels, il y a la question de la détermination des états que je dois préserver ou restaurer. Donc ça doit se faire en associant les différents acteurs et sur des bases scientifiques, en fait. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on arrive à un consensus, à quelque chose qui soit scientifiquement démontré. Alors, après, vous parlez du risque de financiarisation. Ben, je pense que, justement, en comptabilité multicapitaux, ce risque est par construction écarté, puisqu'il y a une étanchéité parfaite entre les différents capitaux. Donc, on ne donne pas, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas compenser une pollution des sols par le fait de planter des arbres. Donc, il n'y a pas de risque, si vous voulez, qu'on financiarise, puisqu'on intègre la finitude au sein même du système comptable. Alors, peut-être que j'ai mal compris votre question.
Attendez, voilà.
Vous avez bien compris ma question, mais je ne suis pas convaincue de la réponse. Vous ne m'avez pas tout à fait convaincue.
Sur le risque, c'est ça ?
Sur le risque, oui, parce que j'ai bien entendu que les capitaux étaient séparés, mais sur un même capital, il peut y avoir un risque de compensation extérieure.
Alors, la soutenabilité forte ne permet pas de compensation extérieure, justement. L'idée, c'est vraiment qu'on regarde les bilans capital par capital. La question qu'on peut se poser, c'est celle, à partir du moment où on considère qu'on a bien déterminé scientifiquement l'état à préserver ou à restaurer, c'est comment j'évalue les coûts de préservation, de restauration. Là, il peut y avoir une incertitude, mais je dirais que cette incertitude, elle existe dans tout système comptable. Lorsque vous passez une provision financière dans une comptabilité publique, il y a forcément une part subjective dans l'évaluation de la provision. Mais là, après, on peut imaginer que le jour, et ce n'est pas demain malheureusement, mais j'espère que ce sera aussi rapide que possible, le jour où les comptabilités multicapitaux seront normatives, on peut imaginer qu'il y aura des commissaires aux comptes, des experts comptables qui vérifieront la validité des écritures comptables, des dépenses et des dettes qui sont comptabilisées pour chacun des capitaux.
Une réaction peut-être du côté de d'Anne Tavernier ou de Jean Laudoir. Il sera en même temps l'occasion pour vous de dire au revoir à tout le monde.
Oui,
allez-y.
Ouais, non, mais je voulais peut-être dire un mot sur l'aspect des normes comptables. Effectivement, c'est une question importante. Effectivement, au niveau européen et international, il y a en ce moment des affrontements entre des visions différentes sur cette histoire de double matérialité, simple matérialité, avec une vision plutôt anglo-saxonne qui est plutôt en simple matérialité, c'est-à-dire uniquement l'impact de l'environnement sur l'organisation et pas la double matérialité qui est plutôt une vision européenne, en tout cas qui se voudrait, l'Europe qui voudrait plutôt développer cette vision de l'impact sur l'environnement et l'impact de l'environnement sur l'organisation. C'est important tout de même d'avoir peut-être des outils. Alors certes, en fait, je pense que la comptabilité peut être un outil aussi qui peut être décentré de l'organisation. On a des systèmes de comptabilité, des systèmes de comptes qui peuvent être mis en place pour des écosystèmes et qui sont intéressants et qui sont pas forcément dans une vocation de comparaison finalement comme on l'est aujourd'hui dans une comptabilité financière. C'est un outil qui peut sortir de cette logique-là. Voilà. Donc ça reste aussi une entrée qui me semble intéressante, même si aujourd'hui effectivement on n'est pas dans une normalisation de ces méthodes qui sont encore une fois au stade de la recherche.
Anne Tavernier.
Je suis d'accord avec ce que disait Jean. En fait, c'est vrai que Christophe parlait de discussion à l'échelle européenne et internationale sur ces questions de normalisation comptable. C'est pas des discussions, c'est des vrais affrontements et c'est même assez violent parce qu'en fait il y a des visions du monde très différentes qui se confrontent on voit bien qu'en fait à partir du moment où il y a un modèle ou une orientation qui va être normalisée, ça va s'appliquer aux acteurs et ça va avoir des conséquences fortes, surtout si c'est un modèle exigeant vis-à-vis des ressources naturelles qui est poussé. L'enjeu pour nous, le constat qu'on faisait côté 27e région, c'est que quand on a commencé à se confronter à ces réflexions-là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'acteurs privés qui commençaient à se mobiliser, à expérimenter des choses. C'est aussi parce que les acteurs expérimentent que ça peut nourrir les réflexions à l'endroit de la normalisation.
européenne, voire internationale. Et donc, nous, ça nous semblait super important de pouvoir mobiliser les acteurs publics sur ces réflexions-là, parce que c'est vrai qu'à l'époque où nous, on a essayé de mettre un pied dans ces sujets, il y avait très peu d'acteurs publics, voire quasi aucun. Il y avait uniquement la ville de Grenoble, en fait, qui, en tout cas à notre connaissance, qui participait assez au groupe de réflexion sur ces questions-là. Et donc, ça nous semblait super important que l'acteur public puisse s'intéresser d'une part au sujet, expérimenter des choses et contribuer à la réflexion, du coup, apporter les fruits de son expérimentation pour contribuer à la réflexion à l'endroit de la normalisation comptable. Sur la question de la financiarisation et du risque de financiarisation, en fait, bon, c'est vrai que sur un temps court comme ça, c'est quand même assez compliqué de déplier le modèle dans toutes ses dimensions. Et puis nous, on n'est pas forcément les plus compétents non plus. Enfin, il y a des chercheurs qui bossent depuis des années là-dessus. Mais c'est vrai que cohabitent aujourd'hui sur ces sujets-là des modèles donc, qui sont plutôt anglo-saxons, qui sont plutôt dans des logiques de financiarisation, si on le dit vite. Et les modèles dont on parle ce soir, c'est des modèles qui justement essayent de vraiment canaliser ce risque-là. Notamment parce qu'effectivement, il n'y a pas de compensation possible entre les différents capitaux, parce que l'enjeu, c'est de reconnaître une dette et que cette dette, elle est pas, on ne peut pas la céder, en fait. Enfin, la dette, elle va être constituée par les coûts cumulés de préservation ou de régénération des capitaux naturels ou humains qui ont été dégradés par l'activité de l'organisation. Et donc, en fait, cette dette, à un moment donné, il va falloir qu'elle soit remboursée. Et la façon de la rembourser, ça va être de payer en fait concrètement des activités pour, de payer, d'engager des actions, donc soit soi-même, soit de rémunérer en fait un tiers pour qu'il engage des actions de régénération des écosystèmes ou des capitaux dégradés. Et donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça ouvre un champ d'activité économique nouveau, quoi. C'est-à-dire que pourrait naître un ensemble d'activités de qui vont viser justement à régénérer ces ressources dégradées. Donc c'est aussi un potentiel important en fait en termes d'activité. Oui.
Oui. Vous êtes intarissable sur le sujet. Ah, oui. On pourrait vous garder jusqu'à 22h, mais malheureusement, on va me tirer les oreilles, sinon il faut qu'on rende l'antenne, en quelque sorte, puisqu'il s'agit d'une radio. Merci mille fois à vous trois d'avoir rendu explicite, compréhensible, pour moi, déjà, ce thème qui m'effrayait un petit peu, mais vous m'avez coucouné, bien préparé cette émission ensemble. Merci mille fois, et je l'espère pour le public qui pourra réécouter, puisque ces émissions sont podcastables et donc réécoutables pendant 6 mois exactement, donc qui pourront prendre des petites notes comme ça pour savoir dans quelle direction on va. Merci pour tous ces efforts. On se retrouve, c'est la fin de la première journée des entretiens territoriaux de Strasbourg. On se retrouve demain avec deux nouvelles émissions, une portant un peu plus sur la démocratie participative et l'autre, figurez-vous, un exemple très précis d'une réconciliation pour les défis démocratiques qui nous mènera vers les littoraux là-bas, les rivages, etc. La capacité de charge qui pourrait être intégrée d'ailleurs aussi dans la comptabilité vertueuse écologique. Merci à vous tous, bonne soirée et à demain. Merci beaucoup.
La radio des entretiens territoriaux de Strasbourg, en direct sur Fréquence T.